Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est un privilège que nous avons tous d'être au service du Seigneur parce que Dieu nous a rachetés pour que nous puissions le servir. Amen. J'aimerais lire avec vous un passage que nous connaissons bien. Parce que cette semaine, je ne savais pas sur quoi apporter une réflexion. Ça m'arrive rarement. En général, j'ai le texte et je travaille sur le texte. Ou j'ai un thème et je trouve un texte pour travailler sur le thème. Mais là, cette semaine, je n'avais pas grand-chose. Et dans ma réflexion, c'est ce chapitre 12 du livre des Actes. Et particulièrement, un petit mot qui m'a interpellé et sur lequel j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est l'arrestation de l'apôtre Pierre et sa délivrance miraculeuse par le Seigneur. Donc, nous connaissons tout ce texte. Alors, je vais juste lire quelques versets pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voilà, on va continuer verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange, croyant que c'était irréel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Voyons le verset 12, c'est le verset qui nous intéresse. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Marc, surnommé Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Je relis ce verset. Hein. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est le fait que Pierre s'est dirigé vers un groupe de prières. Et j'ai intitulé cette réflexion « Avons-nous mesuré l'importance d'un groupe de prières ?» Lorsque nous devenons un disciple de Jésus-Christ, il y a des choses que nous savons tous et qui font partie de la vie chrétienne. Lire la Bible, prier, aller à l'église, témoigner de sa foi à sa famille et à son entourage, se mettre au service de Dieu dans l'église. Ça, ce sont des choses que nous savons tous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a des promesses que nous recevons qui font partie intégrante de notre marche chrétienne. la présence permanente du Seigneur Jésus-Christ à nos côtés. Ça, nous le savons. L'espérance qui viendra nous chercher un jour. Nous le savons. La certitude de la présence de son esprit en nous pour nous accompagner dans le chemin de la sanctification. Ça, nous le savons. Lorsque nous devenons un authentique enfant de Dieu, il y a des certitudes qui nous remplissent de joie et d'espérance. L'amour de Dieu pour nous. Nous savons tous que Dieu nous aime, même si nous sommes des fois infidèles. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons tous que Dieu, dans sa grâce infinie, nous accorde son pardon chaque jour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, nous le savons. Nous savons aussi que Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, il prend soin de nous. Chaque jour, dans sa grâce, il nous donne de quoi nous vêtir et de quoi manger. Sa sollicitude, ça nous le savons. Dans l'Église, il y a beaucoup d'activités pour nous aider à grandir spirituellement, mais aussi pour nous aider à rester éveillés spirituellement, à ne pas nous relâcher dans le combat spirituel, à ne pas nous endormir spirituellement, à ne pas laisser l'adversaire prendre le dessus sur nous, à ne pas être découragé, même si le chemin étroit n'est pas facile, et aussi à nous aider à devenir des chrétiens solides. Ça, nous le savons. C'est pourquoi dans l'Église, il y a de telles activités pour nous aider. Dans l'Église, il y a aussi des frères et des sœurs dans la foi que Dieu a placés autour de nous pour nous accompagner dans notre cheminement, pour nous aider à grandir spirituellement, pour nous guider dans la vie chrétienne, pour nous conduire dans le chemin de la vie par des conseils, des exhortations, des encouragements, voire même par des réprimandes. Tous ces frères et sœurs sont là pour nous aider. Ça, nous le savons. Nous savons tous qu'il faut prier. Combien de passages dans la Bible nous parlent de la prière? Et le Christ lui-même est l'exemple parfait de l'homme de prière. Ça, nous le savons qu'il faut prier. Nous savons tous aussi que Dieu accorde des victoires dans la prière. Nous savons tous qu'une église qui prie est une église qui est forte. Et aussi une église qui grandit dans la foi. Nous savons tous aussi qu'une église qui passe du temps dans la prière est une église qui gagne du terrain sur l'ennemi. Nous voulons tous que Jésus-Christ arrive, que son règne arrive. Ça, nous le voulons tous. En réfléchissant, mes amis, au fond, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tous faire partie d'une église forte, d'une église qui accompagne bien ses membres dans la foi. Personne n'aimerait fréquenter une église qui piétine, qui reste fermée sur elle-même, qui ne manifeste pas l'amour de Dieu. Personne, moi le premier. Dieu, dans sa grâce, nous a laissé un moyen efficace de remporter des victoires et de grandir dans la foi. Le groupe de prière. Sommes-nous conscients de l'importance d'un groupe de prière? Je ne parle pas de la prière, mes amis. Je parle d'un groupe de prière. C'est quoi un groupe de prière? Un groupe de prière, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent ensemble pour prier. d'un groupe de frères et de sœurs unis par le Saint-Esprit dans la foi en Jésus-Christ qui intercède le Père Céleste. C'est ça, mes amis, un groupe de prière. Sommes-nous conscients de la puissance spirituelle d'un groupe de prière? Sommes-nous conscients de la capacité spirituelle qu'un tel groupe pourrait avoir dans la vie de l'Église, mais aussi dans ma vie, aussi autour de moi? Est-ce que nous sommes conscients de l'importance d'un groupe de prière dans l'Église? Dans notre passage, dans Actes 12, nous sommes au début du christianisme. Les chrétiens commencent à être très nombreux. Il y a une grande ferveur, un enthousiasme, une volonté ferme de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme disait Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, les chrétiens étaient animés par cette volonté ferme de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Inévitablement, l'Église est violemment persécutée à cause de sa foi en Jésus-Christ. Prêcher le message du salut ne plaît pas au diable, il faut le savoir. Le diable n'aime pas que l'Église se mobilise pour prêcher et vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc automatiquement, il y a la persécution. Le diable se déchaîne pour décourager le peuple de Dieu, pour essayer de le nuire au maximum. Mais il est vaincu. Il faut savoir que le diable est vaincu, mes amis. Normalement, on doit dire Amen, Alléluia. Normalement. Mes amis, le diable est vaincu.
Amen,
mais oui. Il faut le dire, c'est la vérité. Je ne dis rien de plus que ce que dit la Bible. La Bible dit que le diable est vaincu, que Christ est vainqueur. Amen.
Amen.
Que Christ est assis sur son trône et qu'il règne éternellement. Amen.
Amen.
Je ne fais que dire ce que dit la Bible. Et ça, il faut que nous le sachions, mes amis, que nous sommes du côté du plus fort. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile à le reconnaître et à le vivre. C'est la réalité. Nous sommes du côté du plus fort, du côté de celui qui a vaincu la mort. Tout à l'heure, le pasteur Jean-Claude a présenté la scène. Nous rappelons que c'est parce que Christ est mort et ressuscité, assis à la droite du Père, que toutes ces choses ont un sens. Gloire à Dieu. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Mais sommes-nous, mes amis, conscients de l'importance d'un groupe de prière? Là, je vais vous marteler avec ça, hein. Parce que je l'ai découvert, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et dans la persécution de l'Église, le diable vise les responsables. Pierre, l'apôtre des circoncis. Pierre, celui qui a dit cette déclaration extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'allais dire dans son état de grâce, hein. On connaît la suite. Mais en tout cas, Pierre était cet homme extraordinaire que Dieu a utilisé d'une manière puissante. Donc, dans la persécution, le diable cherche d'abord à atteindre la tête, les responsables. Nous savons tous que lorsque les responsables sont atteints, le petit troupeau a du mal à suivre. Donc, mes amis, prions pour nos responsables. Et Pierre se trouve en prison. Et miraculeusement, il est délivré par le Seigneur. Une fois libéré, que fait Pierre? C'est ça qui est important, mes amis. Une fois libéré, que fait Pierre? Est-ce qu'il rentre chez lui? Non. Il aurait pu légitimement rentrer chez lui, se mettre dans sa chambre et louer son Dieu, le remercier. Il ne l'a pas fait, mes amis. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Et c'est ce qui m'a interpellé. Une fois libéré, le texte nous dit, après avoir réfléchi,
voilà,
une fois libéré, s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Une fois libéré, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre a réfléchi et s'est dirigé vers un groupe de prière, mes amis. Il n'a pas été au temple. Il n'a pas été chez un des apôtres. Il aurait pu y aller, hein, légitimement. Il aurait pu aller voir Jacques. Hein, il aurait pu aller voir Jean. Non. Il s'est dirigé vers un groupe de prière. Pourquoi, mes amis ? Pourquoi c'est vers un groupe de prière il s'est dirigé ? Parce que Pierre, cet apôtre extraordinaire, a reconnu l'importance et le besoin d'avoir derrière lui un groupe de prière. Un groupe de prière. Et quel que soit le ministère que Dieu nous accorde, quelle que soit notre position dans l'Église, dans le monde, en tant que chrétiens, nous avons tous besoin d'avoir derrière soi un groupe de prière, mes amis. Des frères et des sœurs qui prient pour nous. Est-ce que nous pourrions imaginer une seconde une vie chrétienne sans l'importance de ces frères et de ces sœurs qui prient pour nous, sans ce formidable soutien dans la prière de groupe? Non. En tout cas, moi, je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas imaginer ma vie sans avoir derrière moi des amis qui prient pour moi. Et ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que la persécution fait naître différents groupes de prière. Et on peut imaginer qu'à Jérusalem étaient parsemés plusieurs lieux de prière, plusieurs groupes de prière. C'est important. Savoir développer différents groupes de prière. Une église qui grandit normalement grandit par des groupes de prière. Les groupes de prière permettent de quadriller la ville, de quadriller toute une région et ainsi saturer la ville par la prière afin que le message d'évangile touche un plus grand nombre. Dans un groupe de prière, des vocations peuvent naître. Oui. Pierre connaissait l'existence de ce groupe. Et il avait confiance dans ce groupe. Et c'est pourquoi sa première réaction fut d'aller dans ce groupe-là, particulier celui-là. Que nous dit le texte ? Nous dit que où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Beaucoup de personnes réunies priaient. Donc c'était un groupe qui manifestait une grande ferveur et une grande spiritualité. Personnes réunies et priaient. Ils n'étaient pas là pour jouer. Ils étaient là pour intercéder, mes amis. Ils étaient là pour prier. C'est aussi un groupe vivant et dynamique. Pourquoi vivant et dynamique ? Parce qu'il est écrit où beaucoup de personnes. Donc, on peut imaginer, mes amis, que dans ce groupe de prière, il y avait du dynamisme. C'était un groupe qui était vivant, parce que ceux qui participaient à ce groupe témoignaient aux autres. Tiens, viens avec moi, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, il est marqué, ou beaucoup de personnes. Hein, beaucoup de personnes. Ce n'était pas une ou deux, mais beaucoup. Un groupe fervent et dynamique. Beaucoup de personnes priaient. Beaucoup, mes amis, beaucoup. Pourquoi beaucoup ? Aussi parce qu'ils avaient compris l'importance de groupes de prière. Au début de l'Église, un des piliers de la vie chrétienne, c'était qu'il était marqué dans Actes 2, 42, qu'ils persévérer dans la prière. Pour pouvoir persévérer, il y a cette idée d'endurance. C'est pas je viens un jour ou deux, après je m'arrête. Non, il y a l'idée d'endurance. Retenez, le marathonien, l'endurance. Dieu aime ceux qui sont endurants, mes amis. Il aime aussi ceux qui s'arrêtent en chemin. Et dans sa grande sollicitude, il la relève. Mais Dieu prend plaisir à ceux qui sont endurants, ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui persévèrent. Dans ce groupe de prière, ils étaient persévérants. Ils persévéraient dans la prière parce qu'ils avaient aussi compris l'importance d'être ensemble. Ils aimaient être ensemble. Je pense l'avoir dit une fois, mais je le répète. Aimer être ensemble. Vous savez, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'être ensemble. C'est encore moins d'aimer être ensemble. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'espère que vous la voyez. Les premiers chrétiens aimaient être ensemble. Et c'est pourquoi ils persévéraient dans la prière. Ils aimaient se réunir. Et ma question, mes amis, c'est que est-ce que nous aussi, nous aimons nous réunir pour prier? Est-ce que nous avons pris plaisir à nous réunir pour prier? Et dans ce groupe de prière que Pierre a visé, il a trouvé des frères et des sœurs qui aimaient être ensemble pour prier. Et c'est pourquoi dans ce groupe de prière, ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup parce que il y avait quelque chose entre eux. Et ce quelque chose entre eux, c'était quoi? C'était l'amour du Seigneur. Ils s'aimaient entre eux. Ils avaient découvert que l'amour de Dieu, répandu dans leur cœur, les unissait. C'est pourquoi ils aimaient être ensemble. C'est pourquoi ce groupe, il y avait beaucoup de personnes dans ce groupe. Dans un groupe de prière, nous reconnaissons tous notre faiblesse et notre besoin de Dieu. Dans ce groupe de prière, nous sommes là pour prier et intercéder la miséricorde du Seigneur. Dans ce groupe de prière, nous reconnaissons notre égalité devant Dieu. Il n'y a pas un meilleur que l'autre dans ce groupe de prière. Dieu entend la prière de chacun dès l'instant où nous prions dans une attitude d'humilité, de reconnaissance et de confiance dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en prière, les amis, il n'y a pas un dont la prière est meilleure que l'autre. Nous sommes tous à égalité, mes amis. Oui, je me répète, dans un groupe de prière, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous prions ensemble, il y a une égalité parfaite. Nous reconnaissons aussi, dans un groupe de prière, que nous appartenons à la même famille de Dieu, que nous prions le même Père qui nous a aimés le premier et qui nous a unis en Jésus-Christ. Nous reconnaissons que l'amour de Dieu est versé dans notre cœur au même titre que mon frère avec qui je prie. Nous reconnaissons aussi notre unité spirituelle. Comment pouvons-nous dire que nous sommes unis si nous ne sommes pas capables de prier ensemble? Comment pourrions-nous dire que nous voulons faire telle ou telle action si nous ne sommes pas déjà capables d'être unis ensemble dans la prière? La prière est le témoignage de notre unité spirituelle. Lorsqu'une église se déchire, hélas, mes amis, je peux vous dire hélas, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se déchirent, encore actuellement. Beaucoup qui se déchirent. Bien souvent, ce n'est pas toujours sur des problèmes doctrinaux. mais pas plus. Des combats de chefs. Voilà. De nos jours, il y a beaucoup d'églises évangéliques qui se déchirent pour des combats de chefs. Mais lorsqu'une église se déchire, comment peut-elle retrouver l'unité? Sinon dans la prière. C'est dans la prière, à genoux devant le Seigneur, qu'une église déchirée peut retrouver son unité. Parce que dans la prière, nous voyons une égalité parfaite. Une égalité parfaite, mes amis. Nous sommes tous courbés devant le Seigneur. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre dans la prière. Dans un groupe de prière, nous voyons aussi notre force. Si la prière est une arme, c'est vrai. La prière, c'est la meilleure des armes. Des armes spirituelles. Si la prière est une arme, c'est ensemble que nous pourrions mieux utiliser, cette arme. C'est ensemble, mes amis. C'est ensemble que nous pourrions prier au Seigneur de gloire et lui demander sa grâce. C'est ensemble, mes amis, que nous pourrons voir des grandes victoires, ensemble. C'est ensemble que nous pourrions être armés pour lutter contre l'ennemi. Parce que dans la vie chrétienne, dans l'Église, il y a des forts et des faibles. Chacun avance à son niveau. Mais dans la prière, mes amis, dans un groupe de prière, on tient la main de celui qui est faible. Et on avance comme ça. Et le Seigneur a voulu des groupes de prière pour justement aider ceux qui sont plus faibles pour avancer. Les plus forts sont là pour donner la main aux plus faibles. Et ainsi on avance. Parce que dans un groupe de prière, il y a une égalité parfaite. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Nous sommes tous unis, sauvés par la même grâce. Donc après avoir réfléchi, Pierre s'est dirigé vers un groupe de prière. Mais quel exemple d'humilité aussi. Quel modèle à suivre. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je ferais la même démarche, me diriger vers un groupe de prière? En tout cas, chers frères et sœurs, ne minimisons pas l'importance, mes amis, d'un groupe de prière. Parce que bien souvent, c'est au sein des groupes de prière que Dieu dévoile ses plans. J'ai reçu un mail de Jean-Claude. Je veux dire oui pour cette prochaine réunion avec Georges Verwer, qui était l'ancien directeur international de OM, qui a été directeur pendant 2 ans, puisque j'ai eu la grâce de Dieu d'être missionnaire à plein temps pendant 2 ans. Mais Georges Verwer, qui a eu cette vocation, cet appel pour fonder cette œuvre qui a fait un bien extraordinaire et qui continue à faire un bien extraordinaire par-delà le monde, cette œuvre est née d'un groupe de prière. C'était quelques personnes qui priaient pour ce jeune homme, un groupe de prière. Et donc, de ce groupe de prière, Dieu a fait naître une œuvre extraordinaire. Et j'en passe. Bien souvent, des groupes de prière sont nés des églises et des œuvres pour la gloire de Dieu. Des groupes de prière, Dieu peut susciter des grands serviteurs. L'apôtre Marc, l'évangéliste Marc, la première fois que la Bible parle de Marc, c'est dans Actes 12, verset 12. Ceux de Vigneux le connaissent très bien, n'est-ce pas? C'est dans ce groupe de prière où nous voyons l'apôtre Marc en prière, dans le combat spirituel que Dieu va utiliser plus tard. Dans les groupes de prière, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mes amis, ne minimisons pas les groupes de prière. Demandons au Seigneur la grâce de persévérer dans les groupes de prière, afin que nous puissions ensemble marcher dans un même pas jusqu'au retour du Seigneur, pour sa gloire. Amen.